émission spéciale Le Tri Mode d'Emploi, une émission réalisée en partenariat avec la communauté d'agglomération Ventoux Contavenessin.
Bonjour Sylvette.
Bonjour Alain.
Alors aujourd'hui sur RTVFM, émission spéciale consacrée aux déchets et au tri. C'est
au
exact.
Au tri sélectif.
Voilà.
Tout à fait.
Ben, nous produisons un chiffre pour démarrer. Nous produisons, ça c'est une moyenne nationale, 354 kilos d'ordures ménagères par an et par habitant hors déchets verts. Donc ce qui est quand même une somme assez conséquente. On en parlera parce que je pense que sur le Vaucluse, nous dépassons, enfin, surtout sur le territoire de la Cove. Et pour en parler, nous recevons devant les micros.
Eh ben, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Christine Letty-Molina, directrice régionale d'éco-emballage. Bonjour.
Bonjour.
Nous recevons également Gérard Borgo, vice-président de la Cove, délégué à la gestion des déchets. Bonjour Monsieur Borgo.
Bonjour.
Également auprès de nous, François-Xavier Hubert, directeur des services techniques de la Cove.
Bonjour à vous.
Bonjour. Nous avons également Karine Rocheron, qui est responsable à la COF de la cellule prévention déchets et relations à l'usager.
Bonjour à tous.
Et pour terminer, Claire Tremblay, directrice de la communication à la COF.
Bonjour.
Merci à toutes et tous d'avoir répondu à cette invitation. On a une petite heure à passer ensemble pour parler justement tri, déchets. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire et vous faites beaucoup de choses. Donc c'est pour cela qu'on est ravis aujourd'hui de vous avoir devant les micros. Et Madame Letty-Molina, ben nous allons commencer par vous. Vous êtes la directrice régionale de l'entreprise Éco-Emballage. Pour une première question, pouvez-vous nous présenter votre organisme ?
Eh bien, Éco-Emballage est un éco-organisme qui permet aux industriels et à la grande distribution de contribuer financièrement au recyclage des emballages ménagers. Ça, c'est dans le cadre de sa responsabilité de producteur d'emballage. Comment fait-elle cette entreprise ? D'abord, vous la connaissez, elle est placée sur tous les emballages. C'est le petit point vert avec la double flèche qui prouve que les entreprises en fait contribuent financièrement à recycler ces emballages. Et nous, comme éco-organisme, nous travaillons la main dans la main avec les collectivités, avec la COV aujourd'hui, qui est notre partenaire, pour trier, faire trier et recycler les emballages ménagers.
La date de création de cet organisme ?
Alors, 1992.
1992, voilà. Donc ça date, ça fait déjà quelques années.
Plus de 25 ans.
Plus de 25 ans.
Nous travaillons sur tout le territoire français et faisons en sorte que tous les Français puissent trier et recycler les emballages ménagers.
Alors, vous êtes encadré par un cahier des charges qui est fixé par le ministère de l'écologie et du développement durable. C'est exact, c'est toujours le cas ?
Tout à fait. Un agrément qui dure pendant 6 ans. Nous sommes en fin d'agrément là et nous sommes bientôt, nous allons répondre à notre nouveau cahier des charges qui est de plus en plus exigeant, plus exigeant pour les industriels, pour qu'ils assument leurs responsabilités financièrement, et plus en plus exigeant pour la collectivité, pour qu'elle mette les dispositifs, les bacs sur la voie publique, qu'elle fasse de la communication, qu'elle incite les citoyens à faire ce geste très important du geste de tri, et très exigeant avec nous-mêmes pour que nous arrivions à faire qu'il y ait aussi, grâce à l'éco-conception, moins d'emballages ménagers mis sur le marché.
Éco-emballage, c'est un nom indissociable du tri sélectif et du recyclage. C'est important, le tri et le recyclage, tous les deux. Et vos actions au quotidien, c'est d'accompagner aussi les collectivités qui mettent en action des œuvres justement pour aider l'usager, les consommateurs à mieux trier.
Tout à fait, tout à fait. Nous voulons absolument, et les industriels que nous représentons veulent que l'impact environnemental des emballages soit le plus faible possible, qu'on recycle mieux, que nous passions d'une société de gaspillage avec des déchets à une société de recyclage. Et donc, en cela, nous avons comme partenaire les collectivités, nous les finançons. Nous finançons chaque tonne recyclée qui est récupérée sur un territoire, comme celui de la COV, de façon à être incitatif.
Vous avez également une filière qui s'appelle l'ADELF. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette filière, de filiale peut-être ?
Alors, ADELF, c'est le groupe Emballage ADELF. Alors, ADELF, c'est notre petite pépite, puisque ADELF est à l'origine, a été créé plutôt par les vignerons, puisque c'est beaucoup autour du verre et du cycle de vie du verre. Voilà, donc ADELF, c'est autour des vignerons, mais en fait, ils gèrent aussi tous les emballages.
Alors, mission d'intérêt général, est-ce que vous pourriez développer un petit peu plus justement cette mission d'intérêt général que vous avez auprès des collectivités ?
Alors, j'ai l'habitude de dire que Éco-Emballage, qui est un éco-organisme, est 100% une entreprise privée, mais oui, avec 100% une mission d'intérêt général, dans le sens où nos actionnaires ne touchent absolument pas de dividendes et que c'est leur contribution financière qui permettent aux collectivités de pouvoir mettre du bac, mettre de la communication, faire du recyclage, financer les centres de tri aussi pour leur modernisation. Et en cela, nous avons une mission d'intérêt général. Il n'y a pas de dividendes reversés à nos actionnaires.
Donc, en amont vers les entreprises,
en aval vers les collectivités.
En aval vers la collectivité. Donc, quand vous intervenez en aval sur les collectivités, dont la nôtre aujourd'hui, la communauté de communes d'agglomération Ventoux-Comtat-Venaissin, comment ça se pratique, comment avez-vous fait et qu'est-ce qui a déterminé le choix de cette communauté de communes?
Alors, d'abord, nous avons signé un contrat avec la COV, qui a signé un contrat avec nous, pour être partenaire à l'année. Depuis de nombreuses années, nous finançons les efforts de la COV par rapport à tous ces emballages qui sont récupérés de façon à ce qu'ils soient recyclés. Et puis, la COV a présenté de très beaux projets que je laisserai donc les équipes et son vice-président, Monsieur Borgo, présenter tout à l'heure, dans le cadre d'un plan de relance pour le tri, qui venait mobiliser mieux les citoyens pour mieux accomplir ce geste de tri. Et c'est ce plan de relance que nous sommes venus financer, mais je laisserai développer tout à l'heure.
On le développera un petit peu plus. Alors, vous avez différents... comment vous fonctionnez dans l'éco-emballage? Ce sont des comités qui se réunissent? Comment ça se passe? Des comités chargés de stratégie? Comment se passe un peu l'ensemble de la structure d'éco-emballage? Il y a différentes strates dans l'éco-emballage?
Alors, d'abord, éco-emballage, vous voyez, on gère tout le territoire français. On a à peu près 20 000 contrats avec les entreprises qui elles, payer leur contribution financière pour recycler les emballages. Et de l'autre côté, on a à peu près 1 000 contrats avec des collectivités. Mais nous sommes que 220 salariés. Nous souhaitons faire très attention à nos coûts de fonctionnement. Nos coûts de fonctionnement, c'est moins de 4% de notre chiffre d'affaires.
Moins de 4%, effectivement, c'est quelque chose qui est assez bas. Donc éco-emballage, on le rappelle, donc 1992. Est-ce qu'il y a eu des mutations importantes depuis 1992 chez Eco-Emballage?
Alors,
ou des orientations qui ont...
Ce qu'il faut remarquer, c'est que quand nous nous sommes créés, en fait, le recyclage en France, c'était à peu près 18% d'emballage qui était recyclé. Et en 2016, je suis heureuse de vous annoncer que nous en sommes à 68% d'emballages ménagers qui sont recyclés. Alors on peut se dire, c'est un très beau chiffre, c'est formidable, mais... Depuis quelques années, nous heurtons à un plafond de verre. Nous sommes toujours à 67-68%. Or, la loi de transition énergétique, le Grenelle de l'environnement, nous indique le cap à suivre, le cap à atteindre, qui est le 75% de recyclage. Et c'est pour ça que nous avons lancé un plan de relance avec nos partenaires que sont les collectivités.
Alors, il y a des bonus et des malus. C'est pas vous qui êtes maître de ces bonus et des malus sur les entreprises au niveau des déchets et des emballages?
Alors si.
Si, c'est vous.
Si, alors, dans le cadre d'un cahier des charges. Alors, les bonus et les malus, ils s'appliquent, vous parliez tout à l'heure de l'amont. Oui. Nous travaillons avec les entreprises qui mettent les emballages sur le marché. Et donc, quand ils ont un emballage qui n'est pas bien recyclable ou qui est perturbateur dans les centres de tri, eh bien, nous leur appliquons un malus. Et ça peut aller jusqu'à 50% ou 100% de malus. Je peux vous dire que c'est incitatif pour faire retirer cet emballage. Je vais vous donner un exemple très simple. Pour ceux qui sont un peu plus âgés, vous avez tous connu la bouteille de limonade avec le bouchon de céramique dessus.
Oui.
La céramique, le bouchon de céramique était très perturbateur en fin de cycle chez les verriers, où on recycle le verre et puis donc ça perturbait les fours. Nous avons mis un malus aux entreprises il y a quelques années en leur disant si vous maintenez des bouchons en céramique, vous aurez un malus. Ces bouchons ont totalement disparu, vous pouvez le constater, et depuis les verriers sont très contents parce que c'est beaucoup plus facile de recycler ces bouteilles de limonade.
Et sur le plastique, est-ce qu'il y a eu une diminution justement? Est-ce que vous avez poussé les industriels à diminuer ne serait-ce que sur la bouteille de plastique type en 20 ans? Est-ce que justement on peut dire que ça a baissé significativement le poids de la bouteille? Nous l'usager on le ressent parce qu'elles sont de plus fines. Ça donne quoi? C'est vous qui avez incité aussi justement les industriels à cela?
À chaque fois, nous proposons aux industriels et nous les incitons à pouvoir faire des emballages moins lourds, moins nombreux. Et effectivement, je peux vous annoncer que depuis 2012, nous avons plus de 108 000 tonnes d'emballages en moins qui ont été mises sur le marché. Et donc ça, c'est le travail d'éco-emballage du groupe Éco-emballage Adelph avec les entreprises. Et c'est par exemple la canette de métal qui est beaucoup plus légère, de 15%. C'est la bouteille de plastique qui est très très légère.
Légère aussi. Également, on le constate.
Qui s'est beaucoup allégé. Différents exemples de recyclabilité, c'est pouvoir choisir des matériaux plus recyclables aussi pour que nous puissions, après le geste de l'habitant, qui les met dans la bonne poubelle jaune, eh bien, nous puissions les recycler dans les centres de tri et les envoyer chez nos recycleurs. Je tiens à préciser que c'est important le travail qui est fait en amont d'éco-conception, pour alléger les emballages, pour les rendre plus recyclables. Mais ce qui est important aussi, c'est d'avoir créé les filières de recyclage en France. Il faut savoir que sur 100% de produits qui sont d'emballages qui sont recyclés en France, eh bien 89% le sont sur notre territoire. Et ça veut dire que ça produit des emplois de proximité qui sont non délocalisables. Je vous citais l'exemple du verre, tout à l'heure, sur l'exemple de la bouteille de limonade. Eh bien, nous avons deux belles verreries qui accueillent tout le verre de PACA, qui sont à Vergès et Béziers, donc pas très loin, et ça crée de l'emploi. Et ça, c'est très important. Donc nous, 89% des emballages sont recyclés en France. C'est une belle filière, c'est une économie circulaire, on peut le dire, et le saluer. On se demande toujours où est l'emploi en France. Moi, je dis que l'emploi, il est dans l'environnement et dans le recyclage des emballages.
Non, mais c'est très bien, vous faites bien de le souligner. Justement, éco-emballage, vous êtes, on peut appeler ça un appel d'offres, ça va changer. Il y a un cahier des charges sûrement. L'État, vous arrivez au terme d'une convention qui va être renouvelée.
De notre agrément.
De votre agrément.
Nous avons été réagréés pour l'année 2017.
D'accord. Et est-ce que dans le futur, justement, est-ce que, bon, je suppose que ça se durcit au niveau des pouvoirs publics, mais vous, qu'est-ce que vous pouvez amener de plus, justement, dans les années à venir au niveau des co-emballages? Qu'est-ce que vous avez pour l'avenir, pour aller de l'avant encore plus?
Alors, il faut donner, je ne veux pas assommer les gens de Carpentras de chiffres, mais il est important de savoir que nous avons à recycler chaque année 4,9 millions de tonnes d'emballages. Et sur 4,9 millions de tonnes d'emballages qui sont produites, nous en recyclons déjà 3,3 millions de tonnes. 3,3 millions de tonnes, c'est 2,1 millions de tonnes de CO2 qui ont été économisées. Donc ça, c'est la capacité d'éco-emballage du groupe éco-emballage Adelph avec le travail des collectivités. Voilà ce dont je peux témoigner en termes de réussite. Et ben, demain, nous sommes en capacité, par exemple, de recycler le verre à l'infini. Demain, nous nous attaquons encore plus fort au plastique. Les plastiques, nous en recyclons actuellement en France que 55% des plastiques, plutôt exactement 23% des plastiques, et nous voulons atteindre 55%. Les plastiques, c'est compliqué, c'est plusieurs résines, c'est pour autant des matériaux qui sont nécessaires pour pouvoir protéger de la lumière, pour pouvoir permettre un transport, pour pouvoir permettre une traçabilité pour l'hygiène. Et donc, il est difficile quelquefois, même si on peut souhaiter de moins les utiliser, il est difficile de s'en passer. Eh bien, nous travaillons avec les industriels, mais aussi avec les centres de tri, pour pouvoir recycler de mieux en mieux ces plastiques.
Donc l'emballage est nécessaire, on le voit, les efforts sont constants, sont permanents pour justement améliorer la qualité de ces matériaux. Le plastique, voilà, le pari sur l'avenir, parce que je vous posais la question, c'est d'arriver à 55%, si j'ai bien retenu le chiffre, de plastique recyclable. C'est vrai que chez nos concitoyens, les usagers se disent toujours, c'est un peu, voilà, le plastique, j'en fais quoi, je le mets où, mais voilà, donc on voit qu'on va on va de l'avant vers le plastique. Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Bon, bien sûr, vous allez rester toute l'émission avec nous, vous pourrez intervenir à tout moment, mais madame Letty Molina, qu'est-ce que vous auriez d'autre à rajouter en conclusion de ce que l'on vient de dire?
Bah, d'abord, je voudrais encourager vos auditeurs à trier, ça me paraît très important. Souligner leur geste de tri parce qu'il est important, on en parlera tout à l'heure, mais il est tout à fait à la hauteur du geste de tri moyen des Français. Alors si c'est le geste de tri moyen des Français, je ne dévoile pas encore le chiffre, je laisse faire un peu de teasing, c'est la COP qui en parlera. Pour autant, on peut faire mieux. On peut faire mieux. Il faut savoir que le geste de chaque citoyen, ça prend 3 secondes à trier. Mais c'est un geste très important pour l'environnement. C'est un geste important pour les générations à venir. C'est un geste de prévention. Et c'est un geste qui favorise l'emploi. Sachez que c'est le geste qui est estimé quand nous faisons des sondages auprès des Français comme le premier geste citoyen derrière le geste de vote. Alors vous allez bientôt voter, mais par contre vous pouvez trier tous les jours.
Merci Christine Letty Molina. Je rappelle, vous êtes directrice régionale d'éco-emballage. Vous restez avec nous, on se fait une petite pause et on revient pour la suite de ce débat. Tout de suite.
Le tri, c'est bon pour la planète. Quand c'est bien trié, c'est mieux recyclé.
T'as tout compris. Ton vélo, par exemple, il est fabriqué avec des canettes en alu. Le rembourrage des couettes est fait à partir de bouteilles en plastique. Mon magazine aussi est imprimé sur du papier recyclé. Même les boules de pétanque de papy, c'est avec des boîtes de conserve qu'elles ont été faites. Quant au verre, ça se recycle à l'infini.
Exactement. Alors, on sort notre bac jaune bien trié, et après on ira à la colonne à verre.
Le tri, le geste qui nous réussit.
Info sur lacauve.fr. Message de la communauté Ventoux Comte Avenessin.
Émission spéciale, le tri mode d'emploi. Une émission réalisée en partenariat avec la communauté d'agglomération Ventoux Comte Avenessin.
RTVFM. Une radio, une identité, un territoire.
Quand en ville le grain se lève, vent de nerf agité, que se ternissent les rêves. Dans ma réalité, je veux des balades sur la grève. Oh, un peu d'humanité, un moins de béton, plus de trêve. Une vie de qualité, un moins de béton, plus de rêve. Dans ma réalité, que neige une
une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage de neige. Une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage.
Je veux des larmes qui ne coupent pas, et moins de peine en 4x3, un bonheur simple mais à mon goût. C'est un peu vrai mais ça fait tout. Je veux plus de houle dans mon écume et moins de foule dans mon bitume. Ces petites choses qui n'ont au clair de sens qu'une fois qu'on les perd. Ces petites choses qui n'ont au clair de sens qu'une fois qu'on les perd. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage. Oh, que neige alors, une planche de salut pour chevaucher mon vague à l'âme. Bel océan brise talus pour sécher le sel de mes larmes. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage.
Voilà, ben juste avant la petite pause musicale, vous avez pu entendre un petit spot qui tourne actuellement sur les ondes d'RTVFM, sur le tri. Alors ce spot a été créé à l'initiative de la COV, justement, dont nous allons maintenant donner la parole plus précisément. On va s'attarder un peu plus sur notre territoire, donc celui de la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat-Venaissin, qui compte 25 communes, je le rappelle. Et Madame Rocheron, vous êtes responsable de la cellule prévention déchets et relations à l'usager. Et Sylvette, eh ben, va vous poser quelques questions.
Voilà, et puis les exemples pratiques, c'est peut-être ce qu'il y a de plus parlant pour les auditeurs. On va peut-être commencer par des questions pratiques, tout simplement. Comment bien trier au quotidien? Rappel des consignes.
Oui, alors rappel des consignes, comment bien trier? Alors déjà, il faut savoir que dans les bacs jaunes, il y a de l'information. Il y a des guides du tri qui ont été distribués, que faire de nos déchets, et qui sont en fait, eh bien, nous allons trier les briques et les cartonnettes. En carton, bien sûr. Vous aurez les papiers, journaux, magazines, tout ce qui est issu de l'impression, en fait. En ce qui concerne le métal, ce sera les conserves, les canettes, les bidons et les aérosols. Et pour ce qui est du plastique, ce sont uniquement des bouteilles, flacons et bidons. Et c'est tout pour le plastique.
Voilà, donc des consignes que l'on retrouve dans un document qui a été réalisé et distribué il y a quelque temps chez tous les habitants. Mais je me mets par exemple à la place de l'usager ou du consommateur. Je suis dans ma cuisine, au moment du geste de tri, des questions que l'on se pose toutes bêtes. La boîte de conserve, faut-il la laver ou pas avant de la jeter?
Alors non, faut pas la laver. On va pas faire couler de l'eau potable pour rincer un déchet. C'est un non-sens total du point de vue de l'environnement. Donc si vraiment on a le souci des odeurs, le rincer dans de l'eau de vaisselle qui a déjà servi, pourquoi pas, mais il n'est pas nécessaire de rincer sa boîte de conserve pour la mettre en vrac dans le bac du tri.
Tout à l'heure, on a parlé du bouchon en céramique,
oui,
sur les bouteilles d'avant. Maintenant, quel est le bon geste pour la bouteille en verre, mais avec un bouchon métallique vissé, par exemple? Le bouchon plastique, on sait, on le recycle,
oui,
mais le bouchon métallique vissé?
Eh bien, nous, on préconise de le mettre au tri, en fait. Des métalliques.
Et il peut, c'est-à-dire dans le bac
dans
jaune.
Dans le bac jaune, tout à fait, dans le bac jaune.
Est-ce que vous avez des erreurs de tri fréquentes et récurrentes?
Oui, il y a des erreurs de tri fréquentes et récurrentes. Alors, en ce moment, on est beaucoup sur tout ce qui est articles d'hygiène, c'est-à-dire le mouchoir en papier sale, les cotons de tige, choses comme ça, il y en a énormément dans les bacs de tri. Pour ce qui est du plastique, on a énormément d'erreurs, style les pots, les barquettes, les sachets, les films, les filets en plastique qui vont dans le bac des ordures ménagères et non pas dans le bac de tri. Et après, on a aussi des objets que les gens pensent recyclables, ce qui n'est pas faux, mais qui ne vont pas dans le bac jaune. C'est notamment les textiles. Donc voilà, un vieux t-shirt, je ne sais pas où le mettre, il se retrouve dans le bac jaune. Ben non, textile, il y a des colonnes relais pour ça. Le verre, on retrouve du verre aussi. Ben, le verre, c'est pareil. Oui, il se recycle à condition de le mettre dans le bon récipient, c'est-à-dire la colonne à verre qu'on trouve sur le territoire. Et on va avoir tout ce qui est gros objets en plastique, style la panière de linge, les jouets cassés des enfants. On retrouve même aussi des déchets électriques, style la radio ou le sèche-cheveux. Voilà, tout ça, ce sont des objets qui vont en déchetterie et non pas dans le bac jaune.
On comprend bien que le souci du tri sélectif, c'est surtout d'améliorer la qualité du recyclage pour pouvoir le valoriser. On reviendra tout à l'heure sur la valorisation. Mais quelles problématiques ces erreurs engendrent-elles ?
En fait, ça peut souiller suivant les erreurs qui sont commises. En fait, ça peut souiller par exemple du tri qui est déjà en place et ensuite poser des problèmes au niveau de la chaîne de tri, donc au centre de tri et dans la chaîne de recyclage par la suite. Donc c'est augmenter les coûts, c'est pas optimiser un petit peu cette chaîne de tri en fait.
On va peut-être détailler un petit peu vos actions au quotidien, puisqu'on l'a dit, prévention déchets et relation à l'usager. Alors l'usager, c'est du plus petit au plus grand, vous avez aussi la sensibilisation des scolaires et des jeunes.
C'est ça.
Et des actions menées aussi sur le territoire dernièrement.
C'est ça, il y a plusieurs volets où on intervient dans les scolaires, en fait, chez les scolaires, donc de la maternelle jusqu'au collège, lycée, parfois plus en fait, pour donner ce message de tri et de bon tri qui rappelle les consignes de tri. Donc après, on s'adapte à notre public, aux créneaux horaires qui nous sont proposés et donnés. Donc ça peut varier d'intervention en une heure ou d'intervention en quatre demi-journées. Le programme peut être très varié.
Comment ce jeune public est-il réceptif à vos informations ?
Le jeune public est très réceptif, en fait. En général, c'est même eux, du coup, qui vont divulguer l'information à leurs parents et ça s'étend, du coup, dans les familles. Donc, c'est plutôt... Pour nous, c'est une clé un petit peu pour sensibiliser les habitants du territoire. Les scolaires, c'est une source importante pour nous de sensibilisation.
Un bon relais d'informations.
Bon relais, c'est ça.
C'est ça, voilà. Et il y a eu des actions aussi où vous les avez fait participer, pas seulement transmettre le message, mais participer aussi à s'approprier les colonnes, des colonnes à verre, je crois, notamment. Voilà, pour encore plus s'imprégner geste.
Voilà, du geste et s'approprier les équipements aussi. Hein, parce que s'approprier les équipements, ça veut dire après aller retourner vers les équipements et donc trier. Donc effectivement, il y a eu divers gestes.
Moi, j'ai une question, c'est quand je lis votre responsable de la cellule prévention, déchets et relations à l'usager. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette appellation ?
Alors, prévention déchets, en fait, ce qu'on appelle la prévention déchets, ça va être toutes les actions qui vont être menées en amont de la production du déchet. Donc, on va tout faire pour éviter que le déchet soit produit. Donc, pour éviter que ça se retrouve dans un bac, en fait, et qu'il soit collecté. Donc, ça veut dire que on va essayer d'inciter les gens à consommer au plus proche de leurs besoins. C'est-à-dire, si c'est une grande famille, on va leur dire privilégier les gros formats, par exemple. Si c'est des personnes qui n'ont pas l'habitude de lire les publicités qu'on reçoit dans les boîtes aux lettres, on leur proposera un stop pub pour dire vous les lisez pas, autant ne pas les recevoir. Donc ça fera moins de déchets à mettre dans la poubelle en fait. Donc voilà, c'est agir en amont de la production.
Donc cette prévention, elle se fait comment ? Par les déplacements directement ? Vous allez aussi vers les usagers ? Comment
alors,
ça se passe ?
On va sur le terrain. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce qui est prévention, alors se limite à quelques actions, c'est distribution de stop pub, on dispense le message dans les écoles ou là où on va, mais ça va tendre à se développer en fait. C'est-à-dire qu'on va aller vers beaucoup plus d'actions et de communication sur cette thématique-là. Donc aujourd'hui, je dirais, c'est encore à l'état d'embryon, ça va se développer dans les années à venir. Là, depuis 2014, où le tri en porte-à-porte s'est mis en place, on est beaucoup par contre sur la relation à l'usager, c'est-à-dire la sensibilisation en porte-à-porte, de l'individualisation sur comment trier, grosso modo. Donc on est beaucoup sur ça, et on voit que depuis deux ans, il y a eu de sacrés progrès. Donc une fois que ça se sera bien ancré, c'est vrai qu'on pourra aller vers de la prévention.
D'accord.
Le suivi qualité aussi, c'est une façon d'accompagner les communes, les habitants des communes, à les guider, les conseiller pour mieux trier.
C'est ça, tout à fait. C'est-à-dire le principe du suivi qualité, des contrôles qualité, c'est que des médiateurs vont passer avant la benne, en fait, pour contrôler les bacs jaunes individuels qui sont sortis. Et ça nous permettra de regarder comment c'est trié, si c'est bien trié, s'il y a quelques erreurs plastiques ou si c'est pas bien trié parce qu'il y a des sacs ordures ménagères dedans. À ce moment-là, c'est vrai que la poubelle est refusée, mais chaque fois qu'un scotch refus de collecte est apposé sur le bac individuel, dans la demi-journée qui suit, donc en général l'après-midi, les administrés sont rappelés pour leur expliquer la raison du refus, en fait.
Oui, je voudrais préciser quelque chose, que la COV, depuis 2015, a quatre médiateurs et médiatrices du tri, qui est sur nos 25 communes, 70 000 habitants, et que leur travail est nettement, on peut le quantifier, parce que fin de l'année dernière, sur les bacs jaunes, on avait 35% de refus. Et cette année, grâce à leur travail, au quotidien, on en est à 21%. C'est pas encore, on n'est pas arrivé encore, on voudrait descendre à 12 ou 13%, ce qui serait l'idéal. Et Courbalage serait ravi qu'on arrive à ces tonnes-là. Mais au quotidien, on peut dire que leur travail et nos habitants acceptent ce principe et acceptent cette petite pénalité quand on leur dit « trier mieux ». Ça fonctionne, on y arrive, les gens écoutent. Il faut aussi dire merci à ces habitants qui nous écoutent.
Tout à fait. Alors Karine Rocheron, justement, par rapport au refus, ça vous arrive souvent qu'il y a des gens qui vous disent carrément « non, je ne souhaite pas », mais après que vos explications, justement, peut-être des fausses idées, ça ne crée pas d'emploi, au contraire, ça en a retiré. Est-ce que vous voyez le changement, les gens petit à petit, que le message passe et que vous arrivez à leur faire changer d'avis?
Nous, on a un recul, c'est vrai, de 2 ans où il y a un suivi quasiment sur chaque bac. Et c'est vrai qu'on voit la progression, c'est-à-dire des gens qui triaient moyennement au départ, on arrive à ce qu'ils trient bien, en fait. Et je crois que cette action d'appeler les gens systématiquement, ils commencent à comprendre notre démarche qui est vraiment de la sensibilisation et pas du tout de la répression, en fait.
Christine Lotti, Molina.
Oui, je voudrais ajouter que ce qu'on constate, nous, sur tout le territoire français, mais à la COV aussi, vous en témoignez, c'est que les habitants, quand on leur explique que le geste est simple à accomplir, qu'il a du sens, c'est-à-dire qu'après, tout va être vraiment trié dans un centre de tri où travaillent des gens de la région, il faut le dire. Donc, et le centre de tri n'est pas très loin puisqu'il est à Vedaine. C'est important que derrière, il y aura ces filières de recyclage pour refaire des objets derrière, hein, ou pour refaire de la matière première. Donc c'est quand même très important et les gens participent. Et à chaque fois qu'on envoie soit ces médiateurs du tri, ailleurs on les appelle des ambassadeurs du tri, c'est à chaque fois qu'il y a des actions dans les écoles, parce que nos enfants sont nos meilleurs ambassadeurs du tri, eh bien on se rend compte que tout de suite, le geste est de meilleure qualité chez l'habitant. Il faut 3 choses pour que les gens trient simplement. Avoir des poubelles jaunes, des colonnes à verre à proximité, une bonne communication, et la directrice de la communication tout à l'heure va nous en parler sur le territoire de la COV, et puis aussi donner du sens à leurs gestes. Il n'y a qu'eux qui peuvent accomplir ce geste, mais ce geste par contre c'est tous les jours qu'ils font quelque chose d'important pour eux, mais aussi pour leurs enfants, pour leur environnement et pour l'emploi.
Et pour l'emploi. Karine Rocheron, le verre on le sait se recycle depuis très très longtemps, est-ce que c'est celui qui tient toujours le haut du pavé? Je ne parle pas en quantité puisqu'elle dit les quantités de verre je pense se diminuent par le fait qu'il y a peut-être moins de produits actuellement qui sont ou non, ou est-ce qu'on peut constater justement que c'est celui qui est justement le plus trié?
Alors on a Monsieur environ Bordeaux. 2200 tonnes actuellement de verre recyclé sur la COV. Oui. On est en augmentation grâce à, comment dirais-je, aux efforts qu'on fait avec Eco-emballage. On a développé le nombre de colonnes, on a rajouté plein de colonnes dans nos communes et les gens acceptent de... Si, avant, les flacons qui étaient des petites choses de simple, on le mettait dans les poubelles vertes. Aujourd'hui, ils comprennent que c'est du verre et qu'il faut le mettre dans les poubelles à verre. Donc, le tonnage de verre augmente à la COV. Et je pense qu'on n'est pas au bout. On peut encore augmenter. Si les gens améliorent le petit tri, les petits flacons, les petites bouteilles, on améliorera. Et le verre est important. Parce que le verre, c'est un produit qui se recycle 100%.
100%. Madame Letty-Molina.
Oui, alors c'est très important de noter l'action en montée en matière de verre, même si on a encore des efforts à faire. Alors c'est pas seulement à la COV, hein, c'est tout dans le sud de la France. C'est vrai qu'on est parti un petit peu en retard sur ce geste de tri du verre. Il est important, on peut encore trouver jusqu'à 10, 15, des fois 20 kilos de verre par an et par habitant dans la poubelle d'ordures ménagères. Et ce verre, il pèse très très lourd dans vos ordures ménagères. Il vous coûte très très cher parce que vous le payez, et ça nous reviendrons plus tard là-dessus, vous le payez au coût du traitement des ordures ménagères, vous le payez comme un déchet, alors qu'en fait, il a une valeur, il est une ressource, et il peut être recyclable là-dessus. Si on le sort de la poubelle grise, on le met dans la colonne de verre, eh bien, on fait faire plus de 130 € d'économie à la tonne, sur la facture, c'est quand même important, il faut le dire aux auditeurs. Et puis, derrière, on reçoit des soutiens d'éco-emballage, et puis on envoie tout ce verre à la verrerie de Béziers, et ça permet bien de le faire revenir sous forme de bouteille. Et là, je vous dirais de consommer avec modération, mais de trier surtout.
De trier.
Bah justement, vous me permettez la liaison, parce que le verre, on parle bien sûr du tri chez le particulier, chez l'usager, mais vous avez aussi mené une action auprès des professionnels, des cafetiers, des hôteliers.
Tout à fait, on a équipé des cafetiers avec des bacs à verre. Ils ont signé une charte comme quoi ils s'engageaient effectivement à trier leur verre pour que cela augmente les tonnages sur la collectivité.
Alors mieux trier, mieux recycler, mais aussi réduire ces déchets, parce qu'il n'y a pas seulement trier. La réduction des déchets, ça passe aussi par exemple par le compost.
Le compostage, tout à fait. Donc la cove peut remettre un composteur aux habitants de la cove pour un prix bonifié de 20 euros. Donc il suffit de mettre ses restes alimentaires et autres déchets organiques à l'intérieur, retourner un petit peu, arroser de temps en temps, et vous obtenez du superbe humus pour mettre dans le potager.
Pour mettre dans le potager, tout à fait.
Alors moi j'avais encore 2-3 questions, notamment je sais que le tri c'est au quotidien, bien sûr, c'est pas seulement à la maison, quand on est en vacances aussi, donc il y a des actions qui sont menées dans les campings, certains partenaires donc sur le territoire, les cafetiers on vient d'en parler, grâce à tout ce travail d'information sur le terrain, le tri sélectif a gagné en qualité, et le recyclage est nécessaire pour la valorisation des déchets, et je crois que c'est un mot qui est important à retenir. Il faut trier pour pouvoir valoriser.
Une parenthèse justement, parce qu'on parle déchets, ce matin on avait justement une petite discussion tous les deux. Le mot déchet, je trouve qu'il n'est pas approprié, parce qu'on a l'impression que le mot déchet c'est quelque chose qui se jette, qui ne se revalorise pas. Et on dit valorisation des déchets.
Alors que,
la langue française.
C'était ma prochaine question.
Pardon Sylvette, pardon.
C'est ça, valoriser, c'est en retirer une valeur. C'est-à-dire on a l'impression de jeter, mais en fait, quand on met dans un bac jaune, quand on se déplace en déchetterie et qu'on se sert correctement de toutes les bennes mises à disposition, sachez que tous ces déchets, en fait, vont redevenir quelque chose. Et ça permettra, effectivement, de préserver l'environnement parce qu'il y aura moins de transport, parce qu'on ira moins chercher des ressources naturelles dans la nature. Donc, les déchets, où ils ont d'autres vies derrière, donc pensez à trier tout ce que vous avez.
Ou peut-être penser à donner une autre appellation, parce que ce n'est pas un vrai déchet. Ne gardez déchets vraiment que pour ceux qu'on ne peut pas...
Les déchets ultimes, c'est ça qu'on ne peut pas valoriser.
Tout à fait.
Madame Lutimolina.
Oui, tout à l'heure, vous, en entrée d'émission, vous nous disiez qu'on produit à peu près 350 kilos de déchets par an et par habitant sur ce territoire. Eh bien, pour avoir une image, 75% de votre poubelle grise peut être valorisée, que ça soit en biodéchets, que ça soit en ressources recyclables à partir des emballages ménagers. C'est 75% qu'on peut sortir de la poubelle d'ordures ménagères.
Alors on y reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure, Monsieur Bourgault, parce que nous on est un peu au-delà, je crois, de la moyenne nationale.
À la COVE, on est plutôt vers 450 kilos par habitant. Donc on a beaucoup à faire encore.
Beaucoup.
On est aux 350 nationales.
Ça veut dire qu'il y a beaucoup de ressources à aller chercher.
Oui, voilà, beaucoup de ressources à aller chercher. Oui.
On se fait une petite pause et on se retrouve de suite après.
RTVFM, toujours une longueur d'avance.
No, I can go on all night, as long as I get you by my side, yeah. Oh, yeah. Baby, you can let me wait. Wanna share that thing every day. Now let's go back on the dream. Today the time, yeah. If you wanna do it, we'll do it. If you wanna do it, let's do it. Do it, you wanna do it, let's do it.
Émission spéciale, le tri mode d'emploi, une émission réalisée en partenariat avec la communauté d'agglomération Ventoux Comtat-Venessin.
Alors, ben, on vient d'entendre Karine Rocheron, responsable de la cellule prévention des déchets, déchets et relations à l'usager, qui nous parlait de que faire de nos déchets. Et maintenant, on va faire parler Claire Tremblay, qui est la directrice de la communication, qui est la directrice de la communication à la COV. Et tout simplement, Claire, ben, c'est pour nous parler, la COV a lancé une campagne de communication pour sensibiliser les habitants de son territoire au tri sélectif. Avec quel objectif?
Alors, l'objectif de cette campagne, c'était effectivement d'améliorer la qualité du tri, hein, d'un côté, et de l'autre côté aussi de valoriser le geste de tri, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, ce geste de tri, il est de plus en plus efficace et la qualité du tri augmente. Donc, c'était en même temps d'inciter les gens qui ne trient pas à trier, en valorisant ce geste-là, et dans un deuxième temps, de remercier les gens qui trient pour leurs gestes.
Donc deux messages. Alors le deuxième message est aussi intéressant parce qu'on n'en parle peut-être pas assez souvent. Monsieur Bourgault va pas me contredire, c'est merci pour votre geste de tri. C'est vrai qu'on remercie peut-être pas assez. Donc la campagne de communication, c'est faites des efforts, mais ceux qui font des efforts, les remercier aussi parce qu'ils les font.
Tout à fait.
C'était double.
Double. Voilà, c'est une campagne en fait en deux temps, hein, qui se répond. La première partie de la campagne, donc qui est bien trier, mieux recycler, avec des visuels qui reprennent de manière très simple les consignes exactes de tri pour les différents types d'emballages dont parlait Karine tout à l'heure. Et le deuxième visuel, merci pour votre geste de tri, qui met en perspective avec le geste de tri les résultats par matériaux qu'on a sur le territoire de la COV. Là aussi, pour faire le lien entre la qualité du tri et les performances qu'on peut avoir après au niveau du tonnage qui est récupéré grâce au geste de tri.
Grâce au geste de tri. Donc, en tant que directrice de la communication, vous êtes allée voir les élus. Comment ça s'est passé pour leur proposer justement de lancer une telle campagne? Ça s'est fait comment? Et en amont, ça remonte à combien de temps?
Alors, avant cette campagne, effectivement, c'est la première campagne, on va dire, un peu globale de sensibilisation sur le tri qu'on met en place. Mais en fait, elle s'inscrit dans une habitude de communication et de sensibilisation qu'on a depuis longtemps. Et dont le premier vecteur est l'équipe des médiateurs du tri, puisqu'en fait le meilleur outil de communication, ça reste encore l'humain quand on veut apporter des messages qui soient personnalisés. Donc c'est vrai que si cette campagne, c'est la première de ce type qu'on fait, on travaille très régulièrement avec les communes. Donc quand je dis avec les communes, c'est avec les secrétaires de mairie, les agents d'accueil des communes, avec les référents communication des communes aussi, pour essayer de faire évoluer notre message et de faire en sorte que le message soit bien compris. Donc on a cette habitude-là de travailler beaucoup avec les communes. Mais sinon, cette campagne-là en particulier, elle s'inscrit donc dans l'appel à projet auquel on a répondu l'année dernière, hein, pour avec Adelph Eco Emballage. Et donc c'est une campagne qu'on a créée en interne à la COV, en lien évidemment avec la communication de Adelph Eco Emballage.
Donc ça s'est fait en partenariat des communes, venez de le dire, de beaucoup de monde autour de la table. Mais comment fait-on pour choisir justement les meilleurs outils de communication? Parce que souvent on se pose la question, qu'est-ce qui est le plus... Alors il y a les bus, vous allez peut-être nous les énumérer, il y en a plusieurs, c'est assez vaste. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Alors l'idée déjà, c'est de trouver des outils de communication qui soient diffusés sur nos 25 communes. Parce qu'on a effectivement des communes assez dispersées, etc. Donc c'est pour ça qu'on a choisi notamment la radio, hein, la partie campagne radio avec France Bleu Vaucluse, hein, parce que ça permet d'aller au plus près des habitants dans leur foyer, et puis RTV FM aussi. Ensuite, on a souhaité mobiliser nos propres supports de communication. On parlait des bus, hein. On a un réseau de bus Transcov qui circule sur un ensemble de communes. Donc on a souhaité utiliser les arrières de bus, faire en sorte que le message du tri soit aussi intégré dans la vie quotidienne, hein. Les habitants voient passer un bus, il y a le message de tri qui est sur le bus. Après, effectivement, il y avait une campagne d'affichage sur le réseau Abribus, hein, là aussi en lien avec les déplacements. On a ensuite notre site internet de la COV qu'on a totalement repensé et qui est aussi un projet avec les communes. Donc là aussi, on a revu la manière d'organiser la rubrique sur les déchets et on diffuse aussi ces visuels-là sur le site internet. Donc l'idée, voilà, c'était pas de créer du papier.
Un document aussi, peut-être un document quand même. Vous dites pas créer trop de papier, mais il y a quand même un document. Moi, je suis habitant de la COV que j'ai reçu dans la boîte aux lettres.
Oui, alors ce document-là, c'est un document sur les consignes de tri. C'est comme la lettre du tri qu'on distribue dans toutes les boîtes aux lettres. C'est vrai que ce document, il est complémentaire à la campagne, mais c'est un document plus de, sur les consignes de tri.
Ça, c'est un document que les gens peuvent garder avec eux quand ils ont un doute. Je pense que c'est un peu le but, de le garder avec soi et dire, tiens, j'ai un doute, je suis en train de trier, je ne sais pas si le plastique, la barquette, justement, dans polyéthyrène, tienne, si on peut la recycler ou pas, on a un doute, on garde cette petite plaquette, et ça permet de voir que non, effectivement, ça ne se recycle pas. On ne met pas dans le bac jaune. Donc cette plaquette est très importante aussi également.
Voilà. Il y a aussi toute la signalétique sur les lieux de tri. On parlait du verre tout à l'heure et de la campagne qui a été faite pour le verre. On privilégie aussi la signalétique sur les colonnes et les points d'apport volontaires pour que justement, quand les gens sont en situation de tri, ils aient des informations sur ce qui va exactement sur la colonne. Donc c'est vraiment un complément de plusieurs supports qui fait qu'on se dit qu'on peut arriver à toucher les gens voilà, par des moyens complémentaires de communication.
Christine Le Timolina, vous avez quelque chose à rajouter ?
Oui, alors c'est ce que nous avons particulièrement apprécié dans la candidature de la COV pour cet appel à projet, pour relancer le tri sur les territoires et de pouvoir, je dirais, être en communication tout azimut, c'est-à-dire faire profit de tous les supports les plus près de l'habitant, les ambassadeurs de tri, les consignes de tri sur les bacs, les flyers, les guides du tri, les messages à la radio, les émissions, les magazines des communes. Et je dois dire que nous-mêmes, du côté des entreprises, nous n'avons pas hésité depuis 3 ans à les inciter à mettre des consignes de tri sur l'emballage. Et vous avez dû remarquer, quand vous prenez vos emballages, la plupart des emballages, c'est 40 milliards maintenant d'emballages qui sont porteurs d'une consigne de tri. Alors nos auditeurs ne voient pas, mais j'ai une magnifique petite bouteille d'eau devant moi pour me désaltérer grâce à la radio, je la remercie. Et dessus, il y a une petite consigne de tri qui dit que cette bouteille d'eau en plastique, elle se met dans le bac jaune et on peut la recycler. Donc vous voyez, c'est à tous les niveaux qu'on vient sensibiliser la population et lui donner l'information la plus juste sur le geste qu'elle a à accomplir. Cette bouteille d'eau, elle se met dans le bac jaune.
Dans le bac jaune. Karine Rocheron, vous avez quelque chose à rajouter en matière de communication pour en complément de ce que Claire Tremblay vient de dire?
Juste pour dire qu'effectivement, on est en train de travailler sur une réglette de tri qui sera distribuée prochainement. Du coup, le principe, c'est qu'en fait, il y a une liste de déchets et si on a un doute, eh bien, on trouvera vite la réponse pour savoir si ça se met soit dans le tri sélectif, soit aux ordures ménagères, soit dans le verre. Donc, un outil supplémentaire pour accompagner les administrés, en fait, pour faire le bon geste.
Alors, merci Karine. Claire Tremblay, une campagne de communication, donc, c'est très important pour sensibiliser. Est-ce que vous avez des petits retours, des retours déjà de personnes, peut-être M. Bourgault en tant que maire, est-ce que certains usagers vous ont dit, tiens, on a vu la campagne, on a apprécié le document qui a été distribué dans les boîtes aux lettres, est-ce que vous avez un petit peu des retours?
J'ai des retours dans ma mairie,
Oui, déjà dans votre mairie en tant que maire de Loriol.
Dans ma mairie, j'ai des retours, parce que quand même, mes habitants savent que je suis aussi M. Poubelle à la COV, donc j'ai des retours. Tour, surtout, on a eu un conseil municipal la semaine dernière et j'ai des gens qui sont venus en disant, en m'incitant à continuer. Donc c'est une bonne chose.
Vous vouliez rajouter quelque chose ?
Oui, moi je pense que la campagne n'est pas finie, donc c'est difficile d'avoir du recul pour le moment sur son efficacité. Mais moi je dirais que le meilleur retour, c'est si on voit qu'effectivement à l'issue du premier semestre, la qualité du tri s'améliore. Et voilà, c'est dans nos performances qu'on verra si effectivement la communication a fonctionné. Mais c'est vrai que sinon on a des retours par rapport au visuel de personnes qui l'ont vu, voilà, et qui ont trouvé que c'était plutôt sympathique et plutôt positif comme comme visuel, voilà, et que c'était assez sympa, ça rendait le tri plutôt sympathique.
Alors moi, je reviendrai au deuxième message qui me plaît bien. Merci pour votre geste de tri. L'idée, c'est venu de qui ? C'est venu comment, cette idée de remercier justement les, dans votre campagne de communication, de remercier les usagers ?
Ben, c'est vrai que enfin, remercier les usagers, bon, c'est comme dans tout, hein, on remercie en général rarement, hein,
oui, que, tout à fait.
Que ce soit même dans le travail ou dans la vie privée. C'est vrai que le merci, c'est pas quelque chose qui, on est plutôt dans, en général dans le, dans ce qui va pas que dans le remerciement. Donc, l'idée, ça, c'était effectivement de pouvoir faire un petit clin d'œil aux personnes qui trient et qui participent à l'amélioration du geste de tri et de dire, ben voilà, on vous oublie pas, on donne les consignes de tri, on incite ceux qui ne trient pas à le faire, mais en même temps, on vous oublie pas et merci pour ce que vous faites déjà.
Déjà. Alors, on rappelle les deux objectifs de cette campagne de communication, d'inciter à mieux trier ses déchets, et la deuxième partie, c'est d'améliorer la qualité de la collecte du tri sélectif. C'est bien cela ?
Tout à fait.
Claire Tremblay, ben merci. On va peut-être refaire une petite pause musicale. Après, on fera parler Monsieur Bourgault. On aura aussi le directeur des services techniques qui va nous parler un petit peu des moyens, des ressources humaines. Donc restez avec nous, on se refait une petite pause, on se retrouve juste après.
RTVFM, l'esprit jeune.
Émission spéciale, le tri mode d'emploi, une émission réalisée en partenariat avec la communauté d'agglomération Ventoux Comtat-Venaissin.
Et nous arrivons sur la dernière partie de cette émission. Et maintenant, c'est monsieur François Xavier, directeur des services techniques de la COV, qui va nous parler de moyens. C'est Sylvette qui va vous poser quelques questions.
Monsieur François Xavier Hubert. Excuse-moi là.
Trois prénoms, c'est difficile.
Voilà. Donc, François Xavier Hubert, responsable du service technique de la COV. La gestion des déchets est un domaine important à gérer. Oui. On l'a vu. Quels sont les moyens et les ressources dont dispose la COV pour cela ?
Alors c'est vrai qu'à titre indicatif, c'est la première compétence de la COV et c'est vrai que c'est le premier budget de dépenses d'une collectivité, à savoir sur le territoire, une dépense de 9,5 millions par an. Alors pour ce faire, effectivement, nous avons une vingtaine de tournées qui tournent toute l'année. Donc des équipes qui sont de 5h30 à 13h30 sur le territoire pour ramasser une fois par semaine la poubelle, on va dire verte, et une fois par semaine la poubelle jaune, selon en fait un circuit bien précis et des jours de collecte bien précises.
Alors vous parlez de collecte de bacs, mais il y a aussi les caisses, je pense aux colonnes dans les habitats verticaux, les immeubles, tout ça. Là, ils ne disposent pas de bacs, c'est plus des colonnes.
Donc effectivement, la contenance des poubelles peut changer selon la destination. Quand on est un administré dans une maison, on a un bac qui fera 360 litres. Et quand on sera sur des collectifs, en fait, ce bac il viendra en jusqu'à 770 litres, permettant également de faire du tri dans la poubelle jaune et des ordures ménagères dans la poubelle verte.
On imagine aisément que le service gestion des déchets est le plus important aussi au niveau ressources humaines.
Alors tout à fait, on est à peu près 80 personnes sur le territoire, plus en fait dire tous les parties encadrants, donc qui représentent à peu près, on va dire, 90 personnes au service du territoire. Donc effectivement, on parle beaucoup de tri et beaucoup de collecte, mais aussi d'autres outils sur le territoire qui sont mis à disposition pour continuer ce tri, à savoir la composterie pour tout ce qui va être déchets verts sur les professionnels qui sont liés en fait à une activité, on va dire, végétaux. Et également, donc, plusieurs déchetteries sur le territoire qui permettent à nos administrés, donc en dehors du tri et des ordures ménagères, de pouvoir se libérer de déchets, on va dire, autres que ceux dits ménagers.
Je vous couperai, monsieur François-Xavier. J'aimerais que la COV appelle ça des recycleries. Et je pense que ça ferait plaisir à tout le monde qu'on ne parle plus de déchets, mais de recyclerie.
Alors, dans un terme de valorisation, c'est vrai qu'à un moment ou à un autre, peut-être que la terminologie employée, effectivement, serait important peut-être de retravailler.
Alors justement, vous disiez des déchets qui ne vont pas ailleurs, ni dans le bac jaune, ni dans le bac vert. On pense aux ampoules.
Alors
notamment au mobilier, des fois aussi, tout ce qui est électroménager.
Tout à fait. Alors je dirais que pour simplifier le discours, c'est que tout ce qui ne viendra pas dans la poubelle verte et dans la poubelle jaune peut en fait être reçu dans les déchetteries. Donc comme vous l'avez dit à juste titre, les ampoules, mais également le mobilier, le bois, les déchets, les gravats, ce qu'on appelle les déchets inertes. Donc autant sur le territoire, donc à Caron qui est pour l'instant la principale, à Venasque également, à Aubignan, à Malocène. Et très prochainement, donc, une déchetterie sur la commune centre, donc sur la ville de Carpentras.
De Carpentras. C'est bien de rappeler les déchetteries parce que les gens hésitent. On trouve encore, je dirais malheureusement, trop souvent des canapés et autres qui traînent à droite et à gauche. Peut-être moins, vous direz-vous, mais peut-être il y en a encore pas mal.
Alors tout à fait, effectivement. Alors il faut savoir aussi que grâce au service des encombrants et donc à la ressourcerie, donc un service est mis à disposition aussi au niveau des administrés qui n'ont pas malheureusement pas de voiture et qui ne peuvent pas se déplacer sur les déchetteries pour permettre en fait de se libérer en fait effectivement de mobilier qui est devenu, on va dire, plus utilisable. Donc des prises de rendez-vous au niveau des secrétariats du service technique de la COV et avec ce qu'on appelle le service encombrant.
Notamment, la consigne, je crois, qui est donnée quand on appelle la COV pour enlever des encombrants, c'est quelque chose qui ne rentre pas dans un véhicule.
Tout à fait, qui ne rentre pas dans le coffre. Alors effectivement,
histoire de donner une idée à l'auditeur.
Alors,
de
les encombrants, peut effectivement, c'est des choses qui ne vont pas pouvoir rentrer dans le coffre. Et généralement, malheureusement, on est encore limité à trois gros objets encombrants, parce que comme ça doit tourner en fait sur les 25 communes, on est obligé à un moment de limiter.
François-Xavier Hubert, merci. Peut-être maintenant, j'allais vous passer la parole, monsieur Bourgouche.
Je vais rajouter.
Allez-y.
Depuis un mois, la COV a aussi installé dans ses 25 communes ce qu'on appelle des colonnes à carton, destiné pour
le gros cartonnage.
Oui, le gros cartonnage. Et au lieu de le mettre dans les poubelles vertes, parce que c'était l'habitude, on le met dans des colonnes à carton. Il y en a maintenant dans chaque commune. C'est destiné plus aux commerçants qu'aux particuliers, mais les particuliers peuvent se les approprier et personne ne leur refusera de les mettre. Et ça encore, c'est recyclé. Il faut penser que ces cartons qui étaient dans les poubelles vertes qui allaient donc à l'usine de Vedaine pour être incinérés, maintenant sont recyclés. Donc on invite chaque habitant de mettre ses cartons de côté et aller les poser dans ses colonnes qui sont à leur disposition dans les stands des villages.
Donc faites bien de le préciser, quelqu'un qui achète une machine à laver, il y a les cartons qui vont avec. C'est vrai que bien souvent, on le met dans la poubelle verte parce qu'on ne sait pas comment l'utiliser. Maintenant, il y a des colonnes pour récupérer les cartons.
Oui.
On peut retrouver la liste de ces colonnes à cartons.
Il y en a dans le site. Dans les 25 communes.
Oui. Dans les 25 communes.
Il y en a dans les 25 communes et dans les points faciles d'accès.
C'est une très, très bonne information parce que c'est très souvent, effectivement, on ne sait pas que faire de ces gros cartons. Monsieur Borgo, puisque vous avez la parole, vous la gardez. En tant que vice-président délégué à la gestion des déchets à la COV et maire de Loriol, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des compétences de la COV et depuis quand en matière de déchets?
Alors la COV s'appelait en 66, au moment de la création, le district. Il y avait à l'époque 6 communes et la première compétence qu'avaient voté les élus à l'époque s'appelait la protection et la mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie, c'est-à-dire la gestion des déchets. Et depuis, cette compétence est restée la principale compétence de la COV. Comme François-Xavier l'a dit, c'est elle qui est la plus gourmande en termes de montant, mais elle est couverte à 95% par ce qu'on appelle la taxe des ordures ménagères. Et nous, élus de la COV, nous souhaitons et nous espérons pouvoir tenir que cette taxe n'augmente pas encore sur les 3 années restantes de la mandature. Mais tout ça dépend aussi des habitants de nos communes. Il faut avoir un peu de civisme. Des fois, on me reproche de parler de civisme, mais je dis, ça fait du bien d'avoir du civisme et de respecter ce qu'on nous demande de faire.
Vous faites la transition, justement, j'allais vous poser la question, votre point de vue sur l'évolution des pratiques des usagers. Est-ce que vous avez pu constater depuis quelques années
une amélioration? Franchement, oui. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous disais, il faut savoir dire merci, je sais dire merci. Oui, les usagers font un effort. Ils savent que trier, pour eux, est un changement du cadre de vie. Il n'y a pas que le déchet en disant le tri, c'est aussi une nouvelle méthode de vivre, un nouveau cadre de vie. La propreté, le civisme, tout ça en fait partie. J'invite les habitants à le faire et à continuer. Et je continue à leur dire merci.
D'autres remarques concernant votre poste, d'autres responsabilités, ce que vous faites exactement à ce poste donc de vice-président délégué à la gestion des déchets.
Je veux remercier aussi tous les agents de la COV parce que ils sont aussi sur le terrain, ils se font des fois, excusez-moi le terme, c'est peut-être pas très poli, engueulés par les habitants, mais ils ont aussi des consignes qu'on leur demande de faire. Par exemple, un camion n'a pas le droit de reculer, donc les habitants ne comprennent pas pourquoi on va pas chercher leur poubelle jusqu'à devant leur demeure. Mais on a des impératifs, on a des techniques, on a des problèmes de responsabilité. Il faut que chacun participe à cette vie et à aider nos agents à faire leur travail. Et je les en remercie parce qu'ils sont là tous les jours à partir de 5h du matin et certains jusqu'à 19h.
Alors c'est vrai qu'au début ça a été, quand ça s'est mis en place, il y avait comme toujours, comme tout système qui se met en place, beaucoup de gens qui avaient à se plaindre. Maintenant je pense que c'est pratiquement les coups de fil pour il n'y en a pratiquement plus, on n'entend plus parler autour de nous.
Lorsqu'il y a le tri sélectif a été mis en place en 2014,
oui, c'est récent.
Durant le premier trimestre 2015, on avait par semaine entre 25 et 35 réclamations ou remarques, essayons d'être corrects. Aujourd'hui, un an et demi après, si on en a une ou deux par semaine, c'est un maximum. Et je peux vous dire même qu'on a des lettres de remerciement, ce qui est pour moi satisfaisant et encourageant.
Merci Monsieur Borgo. Peut-être Madame Christine Letty en quelques mots, le mot de la fin, qu'est-ce que vous, par rapport à tout ce que votre implication au travers de la commune, de la communauté de communes, qu'est-ce que vous en retirez, qu'est-ce que vous en espérez?
Alors, tout d'abord, encore féliciter ce territoire qui se mobilise. Vous remerciez, vous, en tant que radio, parce qu'on ne le dira jamais assez, les médias ont aussi une fonction et une mission pédagogique auprès de la population. Et c'est important qu'on puisse délivrer ce message, qui est simple. Dire à chaque habitant qu'il est important de lutter contre les idées reçues. Il faut leur réaffirmer que chaque emballage qui est bien trié constitue une vraie ressource. C'est important que ça permet de créer de nouveaux emballages, permet de créer de nouveaux produits, mais ça permet aussi de garder, voire de créer de l'emploi de proximité, et c'est en cela une belle économie circulaire.
Ben, merci à toutes et tous d'avoir participé à cette émission. Sylvette, peut-être quelque chose à rajouter?
Peut-être rappeler que pour les informations, on peut trouver les consignes et les documents téléchargeables sur le site de lacov.fr, qu'il y a aussi un numéro vert à disposition pour toute question en rapport avec le tri sélectif, le 0800 04 13 11, et encore que c'est un système gagnant-gagnant.
Voilà, ben en tout cas, merci à toutes et tous d'avoir participé à cette émission. On espère que nos auditeurs en auront appris un petit peu plus. Nous ici, on en a appris également. Merci encore, et puis bonne route, et puis vive le tri.
Merci.
Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.